Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un dernier extrait du roman de Kim Thuy, Vie. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau roman. Nous avons quitté le Vietnam avec une amie proche de ma mère, A, et ses parents. A est beaucoup plus jeune que ma mère. Au début des années 1970, à Saïgon, elle incarnait la femme moderne à l'américaine, avec ses robes très courtes, qui montraient sa tache de naissance en forme de cœur incliné sur le haut de sa cuisse gauche. Je me souviens de ses irrésistibles chaussures à plateforme dans l'entrée de la maison, qui me donnait une impression de décadence, ou du moins qui me proposait un nouveau point de vue sur le monde lorsque je les enfilais. Ces fossiles, empesés de mascara, transformaient ses yeux en deux remboutants aux poils touffus. Elle était notre Twiggy, avec ses ombres à paupières vert pomme et turquoise, de couleurs qui juraient avec sa peau cuivrée. Contrairement à la plupart des jeunes filles, fuyant le soleil afin de se différencier des paysannes des rizières qui devaient rouler leurs pantalons jusqu'aux genoux et subir la violence de la lumière, A exposait sa peau à la piscine du très sélect cercle sportif où elle me donnait des leçons de natation. Elle préférait la liberté à l'américaine, à l'élégance de la culture française, ce qui lui avait donné le courage de participer au premier concours de Miss Vietnam, même si elle était professeure d'anglais. Ma mère n'approuvait pas son choix, qui allait à l'encontre de son statut de jeune femme de bonne famille bien éduquée. Mais elle l'a soutenue, en lui achetant la robe longue et le maillot que A porterait sur scène. Elle l'a fait s'exercer à marcher sur une ligne droite du carrelage, en maintenant un dictionnaire en équilibre sur sa tête comme dans les films. Ma mère s'occupait d'elle comme une grande sœur et la protégeait des mauvaises langues. Elle permettait à A de m'emmener faire les belles boutiques de la rue Katina et de prendre un soda lime avec ses amis étrangers. A avançait dans cette rue de grands hôtels avec la fierté d'un conquérant. La ville lui appartenait. Je me demandais si ma mère ne l'enviait pas de pouvoir faire preuve d'une telle désinvolture grâce à la pluie de compliments qu'elle recevait de la part de ses professeurs et collègues américains. Ces derniers célébraient sa beauté avec des tablettes de chocolat, des bigoudis, des disques de Louis Armstrong, alors que les Vietnamiens qualifiaient son teint basané de « sauvage ». À plusieurs reprises, mes grands-parents ont demandé à ma mère de me retirer des cours de natation privés avec A. Je soupçonne que ma mère leur a désobéi et l'a gardée près de nous parce qu'elle espérait que j'apprendrais à être belle. Malheureusement, ce temps avec A au Vietnam a été trop court, ou mon apprentissage trop lent. En 1954, le 17e parallèle fendait le Vietnam en deux. En 1975, le 30 avril ouvrait une ligne marquant la frontière entre l'avant et l'après, entre la fin d'une guerre et sa suite, entre le pouvoir et la peur. Avant, nous entendions le rire de A dès qu'elle éteignait le moteur de son scooter. Elle rigolait en sautant à la marelle avec les enfants dans la ruelle. Elle taquinait le jardinier de l'irrésistible transparence de sa chemise trop usée. Elle répondait sans peur aux jappements de nos chiens de garde. Après, A est devenue l'épouse d'un général originaire de Vine, une ville du Nord, rasée par les bombardements mais remplie d'âmes errantes, dont celle de ses parents, qui n'avaient pas pu revoir avant leur enterrement sous les décombres. Sans ce général, toute la famille de A aurait été envoyée dans les terres marécageuses inhabitables, appelées nouvelles zones économiques. Devenir la femme du général a permis à A de continuer à enseigner l'anglais, de ne pas faire la queue pour acheter leur ration mensuelle de sucre, de riz et de viande. Personne n'osait émettre de commentaires désobligeants envers celle qui avait fait le même choix que A. Mais le regard des autres sur elle la blessait autant que les gifles du général qu'elle acceptait de recevoir. Elle ne pouvait épargner à ses parents les bruits trahissant sa soumission puisqu'ils se trouvaient juste de l'autre côté d'un rideau nouvellement installé. Afin de ne pas bondir comme des bêtes, ses parents se taisaient. Ils faisaient les morts. Ils craignaient que A ne suive l'exemple de la voisine qui s'était tiré une balle dans la tête après avoir réussi à faire libérer son mari du camp de rééducation en échange d'une vie de couple avec un haut gradé du Nord. Ce nouveau conjoint avait consenti à la libération et aussi à la fuite en bateau de son mari et de ses enfants. Après leur départ, elle avait appuyé sur la détente pour sa propre libération. Ma mère recevait la nouvelle A, sans maquillage et aux vêtements sombres, avec la même attention qu'avant. Elle l'attendait avec de la ouate et la bouteille de lotion qu'elle utilisait pour soigner toute blessure. Au dire de sa famille, cette longue infusion d'alcool de riz et d'herbes médicinales avait soudé le cou d'un cousin tranché par des éclats de bombes, empêché l'infection des brûlures d'une voisine qui avait été aspergée d'acide par une épouse jalouse et pouvait faire disparaître les ecchymoses avant même que les larmes sèchent. Autant A exposait fièrement ses paupières maquillées avant son mariage avec le général, autant elle dissimulait ses yeux au beurre noir sous le large bord d'un chapeau dès le début de sa vie de couple. J'avais l'impression qu'elle devenait de plus en plus petite, non seulement en raison de ses babouches plates en plastique qui rasaient le sol, mais également à cause de l'absence de ses rires fracassants. Elle montait les marches comme une ombre pour bien s'insérer dans le silence qui recouvrait le pays entier. Les trous de serrure ne laissaient filtrer aucune conversation secrète. Les vents circulaient sans transporter de mots ni de musique. Dans l'air, seuls voyageaient les messages du gouvernement projetés par les haut-parleurs, rappelant le jour du grand ménage, où tous les habitants du quartier devaient sortir leurs balais en même temps pour nettoyer les rues, ou annonçant un procès jugé par trois voisins contre un ancien avocat qui avait osé citer pendant une discussion le code Napoléon, ou dénonçant les familles qui avaient célébré un mariage avec trop de bonheur ou pleuré avec trop de cœur la perte d'un être cher. Je ne savais pas que ma mère profitait de ces annonces publiques pour glisser à l'oreille de A l'adresse d'un passeur qui organiserait notre départ du Vietnam. A traversé le golfe de Siam en même temps que nous. Elle avait réussi à convaincre la coiffeuse de lui présenter son cousin, qui travaillait pour quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui pouvait lui recommander un organisateur. Aucun nom, aucune promesse ne lui avait été donnée. En échange des taëls d'or exigés pour son passage et celui de ses parents, on lui avait dit de se rendre au salon de coiffure le plus souvent possible afin d'obtenir les dates de départ. Elle est ainsi devenue la messagère de ma mère. Nous avons pris le même autobus à l'aube d'un matin qui devait s'apparenter à tous les autres, mon père encore au lit et ma mère en mouvement, enchaînant les tâches sans faire de bruit. Elle m'a enfilé mon habit d'écolière par-dessus deux pantalons. J'obéissais à chacun de ses gestes. Je savais déjà qu'il ne fallait pas poser de questions pour ne pas fragiliser son regard fixe qui servait de barrière à ses larmes. Je la revois frotter les ongles de mes frères avec du charbon, contrairement à tous les autres jours de leur enfance où une nourrice les limait pendant qu'une autre chantait pour les distraire. Quant à ma mère, elle portait les vêtements de notre marchande de fines herbes. Pendant le trajet de Saïgon jusqu'à l'eau, j'ai gardé mon visage collé sur sa blouse encore imprégnée du parfum de la mélisse citronnelle qui refusait de céder la place à celui de la coriandre. Ce mélange de parfums dans l'autobus m'a endormie, m'évitant de sentir les gouttes de sang du poisson que la passagère debout à côté de nous transportait dans un sac qui coulait parfois sur moi lors des virages à gauche. Le sommeil m'a empêché de craindre le policier qui a demandé à voir les papiers d'identité de A et de mon frère Long, assis de rangée derrière nous. Avant de sombrer, j'ai vu le père de A glisser de l'argent entre les mains de celui qui reprochait à mon frère Locke de porter les cheveux longs, comme les capitalistes. Un geste rebelle méritant la prison. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parlais d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots, tout attaché, @gmail.com. À bientôt.
Les mots sont sans importance. 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 Les mots.